Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, Olivier Aymon.
Elle s'appelle Io, Callisto ou Titan. Glacée, volcanique, les lunes des planètes géantes, ces satellites de Jupiter ou de Saturne, représentent une nouvelle cible d'exploration, avec des missions en route en ce moment ou bien en préparation.
Effectivement, les lunes font partie de l'histoire du système solaire. Elles nous racontent une partie de cette histoire parce que les lunes sont un peu des avatars de la formation des planètes. En tout cas, c'est le cas pour les planètes géantes. Donc, elles nous racontent une histoire reliée à leur formation. Et cette formation, elle est liée à la formation de la planète elle-même.
Michel Blanc est professeur émérite et astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Entrons avec lui dans l'intimité de ces lunes, à la définition bien précise.
Oui, c'est lié à, on va dire, l'architecture du système solaire. Le système solaire est organisé, on peut dire, en trois niveaux d'objets. Il y a le Soleil, bien sûr, au centre. Après, il y a des planètes qui orbitent autour du Soleil. Et puis, autour de beaucoup de ces planètes, il y a un deuxième niveau d'objets qui orbitent les planètes. Et c'est ça qu'on appelle les lunes, voilà. Donc, bien sûr, la nôtre, avant tout, c'est celle qu'on connaît le plus. Et puis, toutes les planètes géantes, actuellement, ont des lunes, et qui ont été explorées par l'exploration spatiale. Mars a deux lunes, comme on sait. Et même la planète naine Pluton, c'est un système double, Pluton-Charon, qui a quatre lunes également. Donc voilà, les lunes, c'est un phénomène universel, en fait, qui correspond à ce deuxième niveau d'organisation des systèmes planétaires. Très probablement, ça existe aussi dans les autres systèmes planétaires. On ne les a pas encore découverts, mais je mets mon billet que d'ici quelques années, ça sera fait.
Alors, on va rester pour l'instant dans notre système planétaire, système solaire. Est-ce qu'on connaît à peu près le nombre exact de lunes? Récemment, il y a encore eu des annonces de découvertes. Il y a presque même une compétition entre les deux planètes qui en ont le plus, Saturne et Jupiter, avec peut-être encore un avantage à Saturne.
Oui, effectivement. Alors, toutes les lunes qu'on appelle régulières, qui sont sur des orbites circulaires, qui sont grosses, on les connaît toutes, elles sont assez peu nombreuses. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les lunes irrégulières, qui sont à beaucoup plus grande distance, les planètes. Elles sont très petites. Et en fait, on les découvre petit à petit. Donc, au total, je dirais qu'actuellement, il doit y avoir de l'ordre de 150 de ces lunes irrégulières. Et on continue à en découvrir. Et au fur et à mesure que les capacités de détection des télescopes augmentent, on va continuer à en découvrir. Donc, on peut très bien avoir pour métier découvreur de lunes.
Et c'est vrai que vous l'avez évoqué, cette question de distance est importante parce que nous, quand on parle de Lune, celle qu'on voit dans le ciel, elle est à 400 000 kilomètres à peu près. Là, on peut avoir des Lunes qui sont à plusieurs millions de kilomètres de leur planète.
Tout à fait. Dans le cas de Jupiter, les Lunes occupent un territoire, on va dire, qui va jusqu'à à peu près 30-40 millions de kilomètres de Jupiter, donc très très loin.
Est-ce qu'il y a une raison à cette différence de nombre de lunes autour de chaque planète, et notamment de ces planètes géantes quand on est au-delà de Mars?
Oui, en fait, ça tient au volume de la sphère à l'intérieur de laquelle une planète peut capter une lune et la garder en orbite. Plus la planète est massive, et plus cette sphère qu'on appelle la sphère de Hill est importante. Dans le cas de Jupiter, elle fait 50 millions de kilomètres. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de lunes à l'intérieur. Dans le cas de Saturne, c'est à peu près aussi le même ordre de grandeur. Si vous avez une petite planète, peu massive, son rayon de Hill est beaucoup plus petit et elle pourrait donc capter moins d'objets. Voilà.
C'est pour ça que nous, terriens, on est si pauvres en Lune?
Oui, notre sphère de Hill est relativement limitée, on en a une seule, mais qui est un objet tout à fait remarquable, parce que c'est la seule, en fait, de toutes ces lunes du système solaire dont la masse et le rayon sont à peu près du même ordre de grandeur que la planète elle-même. Dans tous les autres cas, les lunes sont beaucoup plus petites que la planète centrale qui les capte.
Comment est-ce qu'on caractériserait ces lunes si on réfléchit en termes, là aussi, d'organisation? Et qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire du système solaire?
Effectivement, les lunes font partie de l'histoire du système solaire. Elles nous racontent une partie de cette histoire. Parce que, de la même manière que les planètes sont, en somme, des avatars de la formation des étoiles, se forment dans les disques qui naissent autour des étoiles pendant qu'elles se forment et qu'elles s'allument, les lunes sont un peu des avatars de la formation des planètes. En tout cas, c'est le cas pour les planètes géantes. Donc, elles nous racontent une histoire reliée à leur formation, Et cette formation, elle est liée à la formation de la planète elle-même. L'histoire, en fait, de la formation de chacun des systèmes de Lune est différente. Et ça aussi, c'est très intéressant. Ça veut dire que les mécanismes de formation des Lunes diffèrent d'une planète à l'autre.
C'est vrai qu'il y a presque des mini-systèmes dans le système solaire, en fait.
Voilà, dans le cas des planètes géantes, essentiellement Jupiter et Saturne, les Lunes dites régulières, celles-là, elles forment vraiment un espèce de petit système planétaire dans le grand. On pense qu'elles se sont formées dans un disque de gaz et de poussière qui a existé au moment de la formation de la planète elle-même, Jupiter ou Saturne. Et dans ce disque, la création des gaz et des solides, petit à petit, a formé par condensation, par accrétion, comme on dit, les lunes elles-mêmes. Dans le cas de la Terre, par exemple, la Lune s'est formée, on pense, d'une façon différente, à travers un impact géant qui aurait eu lieu quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre elle-même, qui a arraché une partie du manteau de la Terre, qui a formé un anneau qui a réaccrété après la Lune. Donc cette formation par une collision, c'est quelque chose de très original. Et ça s'est sans doute produit aussi dans d'autres systèmes. On pense que Uranus, par exemple, a peut-être formé ses lunes après un impact géant. Neptune, c'est un cas unique, parce qu'on sait que Triton ne s'est sans doute pas formé dans un disque autour de Neptune, mais il a été capté après.
Donc ces lunes, elles disent à chaque fois des choses sur le système solaire et sur certaines zones du système solaire et leur histoire.
En effet, parce que, bien sûr, la formation des lunes, elle est liée à la formation de la planète. Et bien sûr, ce qui s'est passé à Jupiter dépend aussi de la façon dont Jupiter s'est formé dans le système solaire, où il s'est formé, jusqu'à quel point il a migré. Parce que pendant ces grandes migrations qu'ont connues les planètes géantes au moment de la formation du système solaire, elles ont eu l'occasion de capter des tas d'objets qui se baladaient en orbite autour du Soleil. Donc le matériau en fait, qui a été assemblé pour former les noyaux des planètes géantes, mais aussi les lunes, nous dit quelque chose sur l'endroit où ce matériau a été collecté.
Alors on va se rapprocher petit à petit de ces lunes. Est-ce qu'on peut les classer par catégorie? On parle beaucoup des lunes glacées. On est sur cette mission de Juice là, qui va se rapprocher des lunes de Jupiter et de certaines de ces lunes dans une petite dizaine d'années. Est-ce qu'elles sont toutes de cette composition-là ou est-ce qu'elles sont très diverses là aussi?
Alors non, effectivement, il y a une grande variété de compositions. Le meilleur exemple, c'est le système de Jupiter, où on a quatre lunes, les quatre lunes qui ont été découvertes par Galilée en 1610, comme on sait. Donc c'était les toutes premières après la nôtre qui ont été découvertes. Et ces quatre-là sont très différentes. Io, c'est une lune rocheuse. Il n'y a pas d'eau, donc c'est un gros bloc de roche et éventuellement de métal qui est en partie en fusion puisqu'il y a un volcanisme très intense. Donc c'est en fait une planète terrestre desséchée qu'on trouve dans le système solaire externe. Après, vous avez Europe. Alors c'est aussi essentiellement un gros corps rocheux, mais il y a une petite pellicule d'eau qui est gelée à la surface et sous laquelle il y a un océan. Donc deuxième type de lune. Très différent. Et puis le troisième, c'est des objets comme Ganymède et Callisto, donc les lunes 3 et 4, on va dire, de Jupiter, où c'est à peu près 50-50 eau et roche. Donc elles ont des grosses enveloppes d'eau et à l'intérieur, sans doute, des océans liquides.
Vous avez parlé de l'eau, peut-être pas essentiellement, mais c'est l'un des éléments qui fait qu'on s'y intéresse évidemment fortement à ces lunes, parce que qui dit eau dit milieu où possibilité de vie peut s'être formée ou se former.
Oui, tout à fait. On dit souvent qu'il y a plus d'eau dans l'océan d'Europe que dans les océans de la Terre. Et donc, en fait, il y a, dans le système solaire externe, il y a beaucoup d'eau. Et bien sûr, cette eau, quand elle s'est condensée sur des objets comme des lunes qui sont, entre guillemets, habitables, où on peut se poser, quoi, eh bien, elles offrent un intérêt fantastique pour la vie, parce que la vie cherche des réservoirs d'eau, bien sûr, pour se développer.
C'est pour ça qu'on a appelé cet épisode la revanche des lunes, parce que pendant très longtemps, on s'est dit, s'il y a de la vie au-delà de la Terre, ça sera sur une planète. Première saison de ce podcast était sur Mars. On a longtemps pensé que ça serait Mars qui serait le bon endroit pour y trouver un équivalent, on va dire, de forme de vie. Et là, du coup, on se dit, mais non, finalement, c'est peut-être sur les satellites de ces planètes qu'on va trouver quelque chose.
Oui, si on se laisse guider par le fameux triptyque de l'habitabilité. Donc, il faut de l'eau, c'est la première chose, parce que la chimie de la vie, autant qu'on la connaisse avec l'expérience terrestre, donc c'est limité, demande de l'eau. Il faut de l'énergie et puis il faut bien sûr les molécules chimiques qui construisent les molécules de la vie. Donc le fameux SNOPS, là, c'est H-N-O-P-S. Et ça se trouve dans peu d'endroits dans le système solaire. Alors il y a Mars, bien sûr. Mars, on cherche une vie à la surface, une vie dans une atmosphère, comme sur Terre, quoi, avec des océans de surface qui sans doute ont disparu au cours du temps. On pense que c'est plutôt une vie passée qu'on cherche, mais on n'en est pas sûr.
C'est pour ça qu'on est allé se poser d'ailleurs dans le lit d'un ancien lac.
Exactement. Par contre, à l'intérieur des lunes glacées du système solaire externe, on cherche bien sûr une forme de vie très différente, qui serait dans un océan profond, à haute pression, avec une vie qui s'alimenterait par d'autres sources d'énergie, à terme que le soleil, l'énergie chimique, par exemple, des échanges entre le manteau de l'objet et l'océan.
Vous avez parlé de ce triptyque. On le retrouve sur combien de lunes aujourd'hui? En tout cas, on pense pouvoir le retrouver sur combien de lunes?
Oui, si on fait une espèce de classement des meilleurs candidats pour la vie, on va dire qu'il y a Encelade et Europe qui arrivent en tête. Ce sont toutes les deux des lunes dans lesquelles on trouve un océan liquide, au contact avec un manteau de silicate, comme on a sur Terre. Donc c'est très très analogue avec l'interface qui existe sur Terre entre les océans et en particulier les dorsales océaniques, les endroits où il y a de l'activité chimique. Et on sait que là, il y a de la vie qui se développe et qui s'est développée. Et puis après, les autres lunes, je dirais, c'est moins évident parce que leurs océans, Ganymède par exemple, ils sont sandwichés entre deux couches de glace. Une couche de glace de surface à faible pression et une couche de glace à haute pression. Donc le problème des ressources chimiques se pose quand même. Pour être clair, hein, les candidats, c'est Europe et Encelade.
Donc Europe pour Jupiter et Encelade pour Saturne.
D'où une amicale compétition entre les gens qui préfèrent le système de Saturne et ceux qui préfèrent le système de Jupiter.
C'est-à-dire qu'il y a aussi compétition à se dire, est-ce qu'on va d'abord voir du côté de Jupiter, du côté de Saturne, ou bien c'est un peu chacun son tour?
Dans un premier temps, l'exploration est guidée par l'idée de faire un inventaire aussi complet que possible. Là, on va dire que la génération de Voyager, Galileo à Jupiter, Cassini à Saturne, a permis de faire un inventaire des objets de ces deux systèmes.
Jupiter, en gros, des années 80 aux années 2000-2010.
Donc, sélectionner les candidats, on va dire. Et maintenant, il faut retourner, je pense, vers ces deux systèmes pour aller voir de plus près ces objets et vraiment caractériser leur potentiel par rapport à la vie. Alors, c'est ce que JUICE va faire dans le cadre du système de Jupiter pour Ganymède. Est-ce que nos amis américains dans la NASA vont faire avec Europe, avec la mission Europa Clipper? Donc là, on aura un inventaire des principaux candidats dans le système de Jupiter. Mais derrière, il y a Saturne. Il faudra retourner à Saturne parce que Encelade et Titan, les deux lunes qui ont des océans subglaciaires, sont vraiment des objets vraiment fascinants et qui ont été seulement explorés par Cassini. Cassini était un orbiteur. Là, il faudra y aller, rester sur place, si possible se poser, pour vraiment caractériser leurs environnements.
On voit bien dans ce que vous dites qu'on est en train d'affiner nos connaissances au fur et à mesure, et notamment grâce aux moyens qu'on y met. On les a observés d'abord d'assez loin, puis on s'en rapproche pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir à la surface, qu'on a pu faire à certaines missions. Et puis là, on essaie d'aller voir de plus en plus précisément ce qui se passe en dessous.
Exactement, c'est une espèce de zoom progressif. Les missions comme Galileo et Cassini ont fait des tours d'ensemble de ces systèmes, un inventaire. Les missions de la nouvelle génération, JUICE, Europa Clipper et la suite, comme Dragonfly par exemple, qui va aller dans l'atmosphère de Titan avec un drone, sont des missions qui vont focaliser sur un objet et sur des questions scientifiques. Est-ce qu'il y a de la vie? Comment je peux la caractériser? Quelles sont les origines de systèmes? Donc, aller faire des mesures précises qui nous informent.
Ça semble assez fou pour le commun des mortels de dire qu'on va aller déployer un drone sur une lune qui est à
9 unités astronomiques. Donc
9 fois la distance Terre-Soleil.
Voilà, c'est à peu près 1,350 milliard de kilomètres, quelque chose comme ça, oui. C'est un objet technologique, évidemment, absolument fantastique, quoi. Il aura un très grand degré d'autonomie parce que le drone, il va en partie décider de lui-même de sa trajectoire, puisque le temps de trajet de l'information entre Titan et la Terre, donc c'est 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc on ne peut pas donner un ordre en temps réel au drone. Il devra décider, faire du vol autonome, trouver des cibles, pointer des objets, faire des mesures avec un certain degré d'autonomie et donc d'intelligence à bord.
Est-ce qu'on se dit, on s'est posé sur la Lune, on s'est posé sur Mars, on va se poser sur une Lune, tout va bien, c'est facile? Ou il y a des vraies difficultés techniques, scientifiques?
Alors je pense que se poser en tant que tel, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, oui. Bon, après tout, les Chinois se sont posés sur la face cachée de la Lune avec Chang'e 4. Et c'est une séquence entièrement automatique, hein. Donc ça demande de la robotique pour guider une sonde de descente, manœuvrer le moteur et trouver un site et s'y poser. Donc, je pense que ça, on sait faire. Et sur une Lune beaucoup plus lointaine, le principe est le même. C'est plus une question de ressources. Par contre, selon l'objet, il y a des difficultés supplémentaires qui se posent. Sur Encelade, je pense que, honnêtement, ce n'est pas très difficile. C'est une petite lune, donc la gravité est assez faible. On doit pouvoir se poser dessus. Europe, ben, j'avais fait une proposition à l'ESA il y a quelques années, à l'ESA, à la NASA, pour une mission conjointe, pour envoyer un lander sur Europe. Je pense que c'est techniquement faisable. La vraie difficulté, c'est l'environnement de radiation. C'est-à-dire qu'Europe est en plein au maximum des ceintures de radiation de Jupiter, qui font énormément souffrir l'électronique. Donc la vraie question, c'est de survivre dans les radiations. Voilà.
Parce qu'on parle quand même d'environnement très, très hostile.
Exactement, mais le point principal de cette hostilité, c'est les ceintures de radiation de Jupiter. On n'a pas l'équivalent à Saturne. Donc par exemple, aller se poser sur une lune de Saturne, c'est entre guillemets beaucoup plus facile, de ce point de vue-là. Et puis, si on va là-bas, c'est juste pour prendre une photo et la renvoyer à la Terre. On veut essayer de trouver des biosignatures, donc des signatures d'une éventuelle présence de la vie dans l'océan. Ça, c'est pas facile.
Et ça, on ne peut pas le faire depuis l'espace.
Dans le cas d'Encelade, on peut imaginer de passer à travers les plumes d'Encelade, puisque Encelade a la gentillesse de nous envoyer à travers un geyser de l'eau qui sort directement de son fond océanique et qui porte avec elle du matériau solide et des composés chimiques. Cassini est déjà passé dans ses plumes. Elles font plusieurs milliers de kilomètres de hauteur, donc on peut les traverser. Et si on prend une petite collection du gaz et des poussières qui sont dans ces plumes, on peut trouver la composition chimique, y compris des molécules complexes. Sur Europe, par contre, il faut se poser. Et ensuite, une fois qu'on est à la surface, espérer qu'il y a une expression à la surface d'une éventuelle vie dans l'océan de subsurface. Donc ça, c'est pas simple. Et donc, il y a tout un travail actuellement qui porte sur la recherche et le développement d'instruments qui sont capables de mesurer des biosignatures, donc en fait des macromolécules organiques complexes dans ces environnements hostiles.
Et ça, pour l'instant, on ne sait pas si elles sont présentes.
On ne sait pas si elles sont présentes, non.
Ça, c'est à échéance de combien d'années espérer se poser sur une des lunes?
Je pense que ça sera la prochaine génération après Europa Clipper et JUICE. Donc ça nous amène dans la décennie 2030 hein, pour, on va dire, la science, les retours de données. L'Agence spatiale européenne a défini dans son plan à long terme ce qu'on appelle le voyage 2050, une mission vers une lune de Jupiter ou Saturne. Mais donc le temps de préparer ça, allez, on va passer la décennie 2020 à faire ça. On commencera à monter la mission dans les années 2030. Donc voilà, ça c'est pour la décennie 2040. À l'échelle des programmes spatiaux, c'est pas si loin que ça, quoi. C'est dans 20 ans.
Ce qui est formidable dans ce que vous racontez, c'est que vous décrivez des mondes, d'abord qu'on ne soupçonne pas, et puis qui décrivent des mondes vivants, en prenant ce mot sous le sens de, ou qui ont une activité, alors qu'on a toujours l'impression, mais peut-être parce que la seule lune qu'on voit, c'est celle qui nous est la plus proche, c'est qu'on a l'impression d'avoir un bout de caillou un peu gris, un peu inerte.
Tout à fait, oui. On pensait, avant Voyager et Galileo, qu'on allait découvrir des mondes inertes. Et non, la grande surprise, c'est qu'on découvre des mondes qui sont dynamiques, avec des objets qui sont parmi les plus actifs du système solaire. Le volcanisme, je veux dire, dans le système solaire, c'est un sujet générique, c'est une forme d'activité d'une planète. Son expression la plus intense, c'est Io, la lune de Jupiter. L'hydrovolcanisme, c'est Encelade, avec ces grands geysers qui ont été découverts par la mission Cassini, qu'on n'avait jamais soupçonné avant. On n'aurait jamais imaginé qu'une lune aussi petite, seulement 250 kilomètres de rayon, pouvait être active avec un océan à l'intérieur et un océan suffisamment énergétique pour projeter des plumes d'eau dans l'espace. Surprise totale qui s'est faite pendant la mission Cassini, qui n'avait jamais été définie pour explorer Encelade. On était allé là-bas pour voir Titan.
Ça veut dire qu'on pourrait aussi encore avoir, et on se le souhaite d'ailleurs d'une certaine manière, des surprises de ce genre, peut-être à plus petite échelle, puisqu'on va se rapprocher de ces lunes au fur et à mesure, mais qu'il y a une part d'inconnu dans ce qu'on peut découvrir.
Ah oui, je crois que vraiment la grande leçon de l'exploration spatiale, c'est qu'on est toujours dépassé par la diversité des objets qu'on trouve, par leur activité, et on est toujours surpris par les phénomènes qu'on découvre. Donc heureusement, parce que ça pose de nouvelles questions.
C'était Mars, la nouvelle Odyssée, au-delà de la planète rouge, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.